Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Et voilà, nous y sommes. Nous sommes arrivés au tout dernier podcast, au tout dernier interview de cette série consacrée au lien entre la posture et les performances cognitives. Ce dernier épisode, ce dernier échange a été un véritable coup de cœur pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le plaisir de recevoir une personne auprès de qui je me forme très régulièrement, en la présence de Pierre Dufraisse, un très grand nom de la physiologie et de l'antifragilité en France. Ce podcast commence, comme les autres, sur le sujet de la posture. Mais très rapidement, Pierre et moi divergeons quelque peu. Très rapidement, nous nous mettons à parler de la physiologie. On parle également de philosophie, de l'importance des mots que nous employons au quotidien. On parle également de One Piece, de nos passions communes, de ma vie personnelle, de la sienne, de Jean-Louis, son fidèle compagnon, et j'en passe. Même d'ailleurs, durant cet échange, Pierre a cité, pour mon plus grand plaisir, une phrase d'Alexandre Astier dans Kaamelott. On parle également de tout ce qui est médiocrité, de l'importance de faire des erreurs, et j'en passe. Bref, ce podcast est un peu parti dans tous les sens, mais voyez ce dernier comme étant réellement une discussion entre deux passionnés qui partagent beaucoup de points en commun et qui s'inquiètent tous deux, avant toute chose, de parler de la base, à savoir du corps, de l'organisme et du cerveau humain, avant de s'intéresser à tout ce qui est monté en compétence dans d'autres domaines. D'autres domaines comme celui du sport, de la performance professionnelle, de la mémorisation et j'en passe. Si l'approche de Pierre vous plaît, si elle vous parle, si elle résonne en vous au regard du futur podcast que vous allez écouter dans quelques minutes, je ne peux que alors vous inviter à vous abonner à sa chaîne YouTube où il propose gratuitement énormément de contenu. Croyez-moi, ça en vaut le détour. Vous aurez bien évidemment tous les liens présents en description. Également, pensez à vous abonner à son podcast de l'antifragilité, sur lequel il présente différentes réflexions sur la vie, sur la nature, sur la santé et j'en passe. Bref, c'est passionnant. Je vous mets tout ça encore une fois en description. Et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Profitez bien de ce moment et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu moi à enregistrer cet échange. Eh bien, bonjour Pierre.
Salut, ça va ?
Bah, ça va très bien et toi ? C'est bizarre de te dire bonjour, voilà. On vient de parler pendant un quart d'heure ensemble de One Piece juste avant, mais c'est comme ça qu'on a introduit le podcast, il paraît. Ça fait toujours bizarre, effectivement. Donc Pierre, avant de parler un peu du sujet du moi que je traite actuellement, à savoir tout ce qui est posture et lien avec la cognition, les performances mentales, peux-tu déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ?
Avec joie. Je m'appelle Pierre Dufraisse. Je suis un homme qui vient du sud de la France, à côté d'Avignon. J'ai été formé à la naturopathie, à plein d'autres choses aussi, au neurotyping de chez Christian Thibaudeau, au mouvement par Ido Portal, au yoga du froid par Maurice Dobar, à la méthode Wim Hof, à la méthode Buteyko. J'adore, en fait, je suis un éternel élève, et vraiment, si je devais me définir, ce serait ça. Et puis ma profession de naturopathe m'a poussé vers ce que j'aime, c'est-à-dire le renforcement physique et mental de plus en plus, et ça m'a permis de me focaliser là-dessus depuis quelques années, de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV, qui parle beaucoup de renforcement, mais pas que, de physiologie humaine, de loi de la nature, de grands principes du vivant, et un site internet qui s'appelle hormez.com, où je traite justement de tous ces grands outils qu'on peut utiliser de façon naturelle, qui sont liés à cette loi de l'hormez, c'est-à-dire comment un organisme vivant se renforce quand il est soumis à un stress, à une situation stressante, à un challenge, et qui réagit par surcompensation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gain après cette exposition à un agent stressant. Donc voilà, c'est très global ce que je fais, hein, parce que c'est à la fois en ligne et puis à la fois sous forme de stage, sous forme d'accompagnement aussi de sportifs. Voilà. Voilà qui je suis à peu près actuellement.
Et également, tu as un podcast depuis 2 mois, 3 mois?
C'est vrai. Merci de le souligner parce que je le dis pas assez.
C'est vrai.
C'est le format audio que j'ai lancé qui s'appelle le podcast de l'antifragilité. Alors, l'antifragilité, c'est très en lien avec ce terme d'hormèse. C'est plus global parce que ça s'applique à tous les systèmes complexes. L'information est antifragile. La restauration aussi, le système des restaurants, oui. C'est antifragile. C'est-à-dire qu'un restaurant qui unique, un seul restaurant peut mourir, peut connaître la faillite. Par contre, tous les restaurants sont antifragiles parce qu'il y a une saine concurrence. Un coup dur dans l'approvisionnement de nourriture va pousser à l'innovation, par exemple. Et donc, un agent stressant va renforcer le système de la restauration. Ça, c'est voilà l'antifragilité des grands systèmes complexes. J'aime essayer de l'expliquer sous forme audio et faire des liens, évidemment, avec notre vie de tous les jours pour aboutir sur des conseils, sur une philosophie aussi, une certaine forme de réflexion par rapport au monde qui nous entoure.
Et c'est un podcast que tu sors tous les 15 jours en moyenne, j'ai l'impression. C'est ça.
Ah, t'es fort, hein. Ouais, t'es vraiment bon.
Je suis ton contenu. Donc, oui.
Bon, c'est tous les 15 jours. Ouais, exactement.
Et c'est quel jour, par contre, le vendredi?
Une chance sur 7. C'est clair. Non, j'essaye de le mettre le dimanche.
Le dimanche.
Alors, les gens écoutent plus en week-end, ça va être plus simple à écouter, voilà.
D'accord, donc tous les dimanches, un dimanche sur deux. Retrouvez Pierre à partir de quelle heure? 7 heures? Assez tôt, non? Pour ceux qui veulent
alors,
te suivre.
Alors, les podcasts, c'est une bonne question, mais je crois qu'ils arrivent à midi. Voilà. Franchement, c'est la plateforme Buzzsprout sur laquelle j'héberge ça. Qui me l'a proposé tout de suite, dimanche à midi, et j'ai jamais changé, en fait. C'est le paramètre par défaut.
D'accord, c'est eux qui, par défaut, tu proposes le meilleur créneau pour poster.
Voilà.
Ok, cool.
Et ça me ressemble beaucoup, en fait. Hein. C'est-à-dire, tout l'aspect marketing, quand est-ce que tu dois mettre ta photo Instagram, combien de longueur doit faire en minute ta vidéo YouTube. Tout ça, ce qu'on te dit, je ne l'écoute jamais, j'ai jamais écouté, j'ai jamais mis en pratique, et j'ai toujours fait à ma sauce. Et ce qui fait que, tu vois, sur ma chaîne YouTube, t'as des explications physiologiques en plan fixe qui bougent pas sans coupure, ouais. 50 minutes. Tu vois, et personne fait ça. Et tout le monde te dit, non, mais ça marche pas sur YouTube. Ben, ouais, mais c'est moi. C'est moi. Donc, si ça marche pas, c'est pas grave. Je veux pas me travestir, j'ai envie de dire.
Mais ça me fait penser à une chaîne qui s'appelle Le Précepteur, peut-être que tu connais, qui fait
une
analyse philosophique. Qui fait des vidéos de philosophie sur fond fixe, sur image, et pendant quasiment 45 minutes, voire une heure, avec un ton qui est très calme, très lent, et des pauses très longues, et ça marche. Et ça marche très bien, comme quoi, effectivement, rompre les codes, des fois, ça fait du bien, ça apporte un peu de sang neuf, je pense. Et c'est
bien
important.
Sûr. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est à sa place, Charles, comme tous les autres.
Oui.
C'est-à-dire, ils ont trouvé leur façon de faire, ils ne sont pas travestis, et quand tu te travestis, les gens, ils le sentent tout de suite. Ça se sent immédiatement. C'est comme un acteur qui joue un rôle et ça lui va pas, ça lui colle pas, tu sors du film. Là, quand tu es à ta place, tu pourrais vendre des pains au chocolat, ça serait pareil. Les gens, ils viendraient t'acheter des pains au chocolat parce qu'ils viennent pour toi, en fait. Mmh. Et quand tu fais un podcast, quand tu fais une émission, quand tu prends la parole en public, à partir du moment où tu joues un rôle, les gens, ils vont pas accrocher. Si t'es toi-même, tu deviens pour moi un thérapeute. C'est quelqu'un qui est à sa place, il inspire les gens. Donc voilà, c'est toujours cette ligne de conduite que j'ai essayé de garder.
Ok, super. Et je vois, pour t'amener l'introduction, que Jean-Louis est avec toi. Peux-tu nous le présenter
oui.
aussi pour les personnes qui
mais Jean-Louis
pas,
est là, dis bonjour Jean-Louis.
Bonjour
il
Jean-Louis.
Il dit bonjour, mais le micro n'est pas assez fort en fait. Mais il vous salue bien bas. Jean-Louis, c'est tout le principe est là en fait. Tout le projet de Verisme TV, c'est ça, c'est Jean-Louis. Parce que Jean-Louis, en fait, il représente le côté humour, enfantin. Mm-hmm. C'est un tableau qui me parle, qui me répond en fait avec des bulles de BD dans mes vidéos. Parce que c'était ça le projet, c'était créer ce qu'on avait quand on était petit. Je sais pas si tu te souviens du dessin animé, il était une fois la vie. Et c'était j'apprends en m'amusant, c'est-à-dire je regarde un dessin animé qui est bien fait en plus, vraiment
très
bien fait.
Très bien fait, avec Maestro.
Une aventure, mais ouais, c'est clair, tous les persos sont sympas. Il y a vraiment, t'es pris dans le truc, mais en même temps, ça t'explique le corps humain. Et ça, je trouve que de nos jours, les enfants à la télé ou sur les réseaux, ils ont plus ça. Et ça doit beaucoup manquer. Donc, je me suis dit, je vais créer ma chaîne de mon côté avec cette touche de vulgarisation, au bon sens du terme, pas au sens de la vulgate, mais vraiment au sens de la popularisation, des concepts du corps humain qui peuvent sembler, qui sont complexes, mais avec des tournures de phrases simples, avec des explications claires, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà.
Et il me semble également qu'après, il était une fois le corps, non, c'est quoi, il était une fois tout court, je sais plus trop le titre, peu importe, on a eu le bus magique aussi.
Ouais.
Je sais pas si t'as connu.
Oui.
Le bus magique
c'est
aussi.
C'était sympa, il y avait, mais même il est pas sorcier.
Oui, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier, avec Frédéric Jamy, bien sûr. Qui m'attend, voilà. Exerce
c'était
sur YouTube d'ailleurs.
Mais bien sûr. Ils ont vraiment planté les jalons de cette vulgarisation scientifique qui est excellente. En plus, hein, moi, j'ai appris plein de choses. Heureusement qu'il y a YouTube. Moi, sur YouTube, maintenant, il y a à boire et à manger, mais c'est très important de revenir à ces grands principes. C'est-à-dire, ils expliquaient des trucs où il n'y avait rien de subjectif. Tout était objectif. C'est-à-dire, c'est les données, c'est les datas. Moi, je fais toujours ça. C'est-à-dire, j'ouvre mon bouquin de physio et je prends un chapitre et j'en fais une vidéo. Donc, j'invente rien. Et le problème, c'est que de nos jours, dans les mêmes canaux circulent opinion, avis, réflexion, fake news, principes, lois, règles personnelles, et tout ça, c'est très difficile de se faire un avis sur voilà, c'est quoi, c'est quoi la vérité, où est-ce qu'elle est la vérité, est-ce que ce que j'entends c'est juste une opinion ou est-ce que c'est vraiment du savoir, voilà, c'est remettre la connaissance au cœur de la démarche en fait.
Non, et puis ce qui est intéressant avec toi, c'est que c'est pas très scientifique, si ça l'est, mais c'est très bien amené, très bien vulgarisé et illustré. Et c'est là qu'il y a beaucoup de valeur, je trouve, contrairement à un livre brut comme le Marieb, que tu connais très bien, je pense, qui est chez moi et qui pèse environ 10 kilos, je pense. Toi, vraiment, tu vulgarises les termes, tu mets des images, des dessins, et justement, c'est ça que j'aime dans ton travail, c'est ce côté très accessible de la démarche. Donc voilà, je tiens à te le dire, pour une fois que je t'ai en visuel, je tiens à te le dire. Bon, commençons maintenant notre thématique du jour, et du mois, du coup, pour moi, pardon, la thématique de la posture que tu maîtrises parfaitement bien. D'ailleurs, tu as sorti une formation dessus assez récemment, qui s'appelle Connexion.
Ouais.
Donc
ouais.
Une formation sur l'antifragilité, c'est mes souvenirs sont bons, formation que je n'ai pas encore terminée malheureusement. Et je voulais commencer avec toi sur une question, la question de la pyramide de l'apprentissage. C'est une notion que tu évoques assez tôt dans la formation, et c'est une notion qui est très importante pour moi parce que dans mon podcast, mon but c'est d'aller à la base de la base. Aujourd'hui, tout le monde parle de compétences, de communication, de savoir-être et autres, mais personne parle du cerveau. Alors que pour moi, sans un cerveau qui est optimisé, sans un cerveau qui est en forme, sans un cerveau qui ne manque pas de sommeil, avoir des compétences ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas exprimer ces compétences efficacement. Et du coup, cette notion de pyramide de l'apprentissage fait parfaitement écho à ça. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ?
Bien sûr, avec joie. Tu sais, c'est comme dans l'entraînement physique. L'entraînement physique ou même la musculation. Tout à l'heure, en off, on parlait de notre ami Rudy Koya, de Christophe Cario aussi, des gens qui sont vraiment dans la préparation physique, dans la musculation ou autre. On parle d'entraînement pour prendre de la masse musculaire, on parle d'entraînement pour renforcer l'endurance, augmenter le glycogène, on parle aussi de l'entraînement de force, comment j'augmente ma force. Mais par exemple, prenons la force, l'expression de la force, elle ne peut, c'est une technique. La force, c'est une technique, comme disait Charles Poliquin, elle doit s'asseoir sur la stabilité. Si vous n'êtes pas stable, et comme il disait, on ne peut pas tirer un boulet de canon à partir d'une barque. On voit bien que c'est instable. C'est exactement ça. La pyramide d'apprentissage, ce que j'aime, c'est justement cette forme de pyramide. Et on comprend qu'une pyramide, elle est forte parce que sa base est solide, parce que sa base est stable et grande et large. Bah, dans le développement du système nerveux, et là, je ne peux que vous renvoyer vers le travail de mon formateur et mon ami, Mathieu Boulet, de l'Institut IP, notre cher Québécois, plus français que Québécois, c'est lui qui m'a appris la posturologie. Et à la base de cette pyramide d'apprentissage, on a le système sensorimoteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le développement en fait d'un être humain, à partir du moment où il est bébé jusqu'à l'âge adulte, vont se développer de manière hiérarchique ces structures de son système nerveux. Et ce qui va permettre en fait le développement de son système nerveux jusqu'à atteindre le niveau de complexité d'un adulte, c'est-à-dire utilisation du néocortex au maximum, avoir la réflexion, avoir la capable de donner du sens et un pourquoi à son environnement, ce qu'on est en train de faire, pouvoir faire un podcast, pouvoir parler ensemble maintenant. Tout ça, c'est l'aboutissement. Les émotions, ça arrive après. Ce qu'il y a avant et ce qui donne naissance à tout ça, c'est d'abord le toucher du bébé au niveau du sein de la mère. Là, il va commencer à se désensibiliser les paumes des mains qui et les plantes des pieds qui sont à la naissance extrêmement sensibles. Ce toucher-là, ce tactile, c'est autant d'informations afférentes, c'est-à-dire qui vont remonter au cerveau via les nerfs, et qui vont l'informer en fait de l'environnement. Pareil, quand le bébé va ramper, petit à petit, il va se désensibiliser au niveau paume des mains, plante des pieds, etc. Il va se développer d'autres sens, comme la proprioception, comme le système vestibulaire qui gère l'équilibre. Alors, je sais que tu as eu Adrien Chartier avant, je sais que tu as eu des grands noms justement autour de la posturologie, donc j'ai pas envie de faire des redites, et à mon avis, ils ont couvert déjà tout ça. Mais en fait, hiérarchiquement, on va accumuler comme ça le taux de complexité. Mais tout ça ne passe que par le sensorimoteur. Et on sait que de 0 à 2 ans, il y a 72 mouvements que le bébé doit entreprendre et maîtriser. Dedans, il y a la coordination œil-main. Quand tu lui montres ton petit doigt au bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le petit doigt
Il le
et il
saisit.
approche sa main et il attrape. Voilà. Et ça, c'est une coordination qu'il doit maîtriser. Le ramper, c'est extrêmement important, qu'il passe du temps en train de ramper pour coordonner, pour lever au bout d'un moment son menton vers l'horizon et scanner horizontalement avec sa vue, pour regarder de haut en bas également quand il va commencer à ramper. Tout ça, en fait, ça développe des aires dans le cerveau qui vont faire que petit à petit, il va être bien, comment dire, équilibré au niveau du système nerveux. Et le comportement, la conscience des deux hémicorps, par exemple, savoir quel est mon côté gauche, quel est mon côté droit. Tu sais, il y a une personne que tu dis, lever la main droite, et elle se dit, bon, alors la main droite, c'est la main où il n'y a pas la montre, etc., machin. Ben ouais, elle n'a pas conscience de ces deux hémicorps. La proprioception, c'est-à-dire ma représentation mentale de mon corps dans l'espace, tout ça, c'est le niveau au-dessus. Puis le niveau au-dessus, qui découle du sensorimoteur, de l'audition, de l'olfaction, de la vue, du capteur podal des pieds. Et petit à petit, on arrive au comportement. Petit à petit, on arrive aux émotions. Petit à petit, on arrive à là où naissent plus ou moins nos problèmes d'hommes et de femmes modernes. C'est-à-dire que les problèmes comportementaux, les problèmes émotionnels, de stress, etc., on essaie toujours de les résoudre dans cet étage du haut, avec d'autres mots. Avec, tu vois, et le truc, c'est que ben, c'est plus ou moins illusoire, ça va aider. Je dis pas que les mots ne vont pas aider, ça peut désamorcer une situation, ça peut exprimer ses émotions par les mots, c'est extrêmement puissant, je le fais toujours, et je le recommande toujours à mes clients. Mais commencer par ça, sans prendre en compte la base de la pyramide, c'est rater, en fait, l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains, quoi. Il faut vraiment repenser la structure même du système nerveux pour avoir des actions qui vont faire effet domino tout de suite sur le reste.
Mais du coup, en tant qu'adulte, si on a un dérèglement, si on a loupé un des 72 mouvements dont tu parles, est-ce qu'on peut le rééquilibrer par la suite? Ou est-ce que c'est très compliqué à mettre en place? Toi,
Non, c'est
typiquement,
pas
mon fils,
compliqué.
moi, donc j'ai expliqué dans le podcast la semaine dernière, du coup, avec Adrien, mon fils n'est rampé que d'une seule jambe, par exemple. Donc forcément, ça crée un déséquilibre. Est-ce qu'on peut le retravailler dès à présent avec des mouvements spécifiques, avec des gestes, donc en tant qu'enfant, parce qu'il a même pas 3 ans à l'heure actuelle, pardon, à l'époque actuelle, et également en tant qu'adulte, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Est-ce que c'est toujours intéressant de le faire aussi, passé 50 ans, par exemple?
Bien sûr, bien sûr. Il y a une plasticité neuronale de toute façon qui est toujours là, hein, toujours. Ça passe par des exercices, ça passe par des routines, 5 à 10 minutes par jour. C'est vraiment pas très demandeur en plus. C'est des petits jeux, c'est des. Voilà, moi, quand je m'entraîne, je prends toujours 5 à 10 minutes pour réveiller ce qu'on appelle ces patrons moteurs. Hein. Les patrons, comme dans la mode, ça sert à faire le vêtement complexe, mais à la base, c'est juste un modèle, c'est juste un truc compliqué. Ben, c'est exactement la même chose pour le système nerveux. Tu réveilles ton système, par exemple l'équilibre, le système vestibulaire, en bougeant la tête pour aller de haut en bas, pour les saccules, tu sautes sur place, etc. Tu joues sur l'équilibre, tu réveilles le système tactile, le toucher avec une balle à picot. T'as quelques exercices comme ça, la proprioception, tu essaies de toucher le bout de ton nez avec ton doigt. Enfin, tu as des exercices qui sont simplissimes et qui ont des répercussions tout de suite sur la posture, et tu peux t'intéresser à tout ce qui passe au niveau des réseaux sociaux autour du CIES, le centre du docteur Bricot, qui est la personne en fait en France qui a inventé la posturologie et qui a formé Mathieu Boulay, dont je parlais tout à l'heure, de l'Institut IP. Et même l'Institut IP de Mathieu Boulay, vous pouvez visiter sa page. Et même tous nos amis, Adrien Chartier et autres, ils posent régulièrement sur Instagram des cas clients où on a avant et après. Alors le type, il a 40, 50, 60 ans, peu importe, il a une épaule comme ça, ou sinon on lui demande de toucher ses pieds, il n'a aucune mobilité, il leur fait faire 2-3 tests, équilibre, visuel, on joue sur un petit peu 2-3 patrons moteurs, et hop, tout d'un coup, il a gagné en amplitude. Hop, l'épaule s'est redressée. Ça va extrêmement vite. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est que quand on repart à la cause, l'effet domino est immédiat. Alors que si tu essaies de passer par les voies cortico-spinales et la volonté, et les mots, encore une fois, tu dis à la personne, tiens-toi à droite. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se redresser. Mais 2 secondes après, ça part en cacahuète. Voilà, ça peut pas marcher par la volonté, ou sinon, ça marche en 5 secondes, 10 secondes, quoi, tant qu'on y pense.
Et tout ça, encore une fois, un lien avec tout ce qui est cognition, performance mentale, apprentissage et autres, comme tu l'as dit, grâce à la pyramide de l'apprentissage. Parce que si la base n'est pas solide, forcément, l'effet domino va pas se faire, ou va se faire mal. Tout simplement, ça va dérégler la capacité à apprendre, à mémoriser, à s'exprimer en public, comme tu lis très bien dans ton programme. On est d'accord.
Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'est l'aboutissement, ça. C'est ta performance mentale et physique. C'est ce qui est à la fin. C'est la résultante, quoi. Donc, il faut prendre soin des conditions de base. Là où les gens se focalisent toujours sur le résultat. Ils disent, merde, le résultat est pas bon. Qu'est-ce que je dois changer en bout de course? Non, change pas en bout de course. Change ton point de départ. Et là, tout va changer.
Parce qu'on dit une notion de survie qui est propre au cerveau et qui est son but principal. Si de base on n'est pas équilibré pour survivre dans la nature, forcément les compétences telles que les émotions, la gestion du stress ne servent à rien. Parce qu'on n'est pas fait pour survivre. C'est ce que je dis souvent en podcast, par exemple quand on est malade, quand on prend pas soin de son microbiote ou on s'alimente mal, forcément les compétences ne vont pas suivre. Parce que le cerveau va allouer son énergie à soigner le corps avant toute chose. Parce que la maladie est un risque de survie alors que la performance mentale ne sert à rien du moment que le corps n'est pas stable.
Tout à fait. Tu as très bien résumé. Le corps, il ne connaît qu'une seule chose, c'est la survie. Hein, ça, c'est l'épreuve maximale d'intelligence dans la nature. C'est l'épreuve de survie. Et lui, il veut perdurer dans le temps. Il veut perdurer à l'espèce. Il sait pas du tout ce que c'est que soulever de la fonte ou essayer d'écrire une pièce de théâtre ou jouer de la musique. Lui, performance mentale et physique, il sait pas ce que c'est. Mm. Et comme tu l'as très bien dit, lui, il veut juste maintenir des états. En fait, son but, c'est toujours une alliance entre l'entropie et la négentropie. L'entropie, c'est la déperdition d'énergie, hein, qu'on caractérise par la déperdition de chaleur. Et la négentropie, c'est cette volonté et capacité du corps à vouloir toujours contenir les choses pour qu'il y ait le moins de fuite d'énergie possible. Donc, dans cette tension constante, parce que malheureusement, on est en train de perdre le combat, hein, on va tous mourir. Hein, oui. De toute façon, le corps,
il a... De toute façon, on meurt, hein, on est prédestiné à mourir.
Nous sommes tous en train de mourir. Spoiler, c'est pas des spoilers sur One Piece, mais c'est des spoilers sur la vie. Donc, ce faisant, en train de mourir, le corps essaie de freiner la descente, quoi. Mais il sent bien qu'il y a une descente quand même. Et donc, contenir, et on le voit au niveau cellulaire, t'as la double membrane qui contient la cellule, au niveau du corps, t'as la peau qui contient. C'est toujours cette histoire-là, cette tension entre entropie et négentropie. Donc, le corps, il ne connaît que ça, encore une fois, et c'est seulement s'il y a une adéquation entre demande et ce qu'on lui donne, le besoin, la demande et ce que tu vas lui donner, que tu peux toucher à la performance. Et je vois des gens en fait qui sont toujours à contre-courant de leur physiologie. Moi, je dis qu'ils sont, comme disait Julien Pinault, métaboliquement insultants, c'est-à-dire le corps dit un truc, il demande quelque chose et tu fais un truc qui est pas en alignement avec ça. Et donc, là, encore une fois, le socle devient pas solide. Et donc, l'expression de la force ou de la performance ou quoi que ce soit, ou même d'une clarté d'esprit et de réflexion, ne peut pas advenir. On n'est pas sur des bases solides.
Bah, l'exemple le plus flagrant par rapport à ça, c'est les gens qui se forcent à manger le matin alors qu'ils n'ont pas faim.
Exactement.
J'étais comme ça à une époque, hein, très clairement. J'ai été très longtemps. Je mangeais à 5h du matin avant de faire du sport. Le soir, je finissais à 21h mon repas. J'avais une fenêtre de jeûne qui était ridicule. Mais je me forçais à manger par habitude et aussi presque par convention, parce que cette notion de 3 repas par jour, on l'a hérité récemment de l'après-guerre, selon moi, où les gens étaient en manque avant l'après-guerre. L'après-guerre a fait beaucoup de mal par rapport à ça, par rapport à la famine ou autre. Et les gens, juste après, ont voulu justement l'opulence pour contrecarrer, oublier un peu cette période compliquée. Et aujourd'hui, on a instauré 3 repas par jour, que ça ne sert à rien si on n'a pas faim. Tout simplement.
Bien sûr. On a oublié cette reconnexion au ressenti. On est, tu l'as très bien dit, on a connu une période très faste, on a connu quand même 2 guerres mondiales très rapprochées, où ça a été sans doute dans l'humanité extrêmement dure, et on est sorti de là, évidemment, avec des industries énormes et une volonté, sans doute, de consommation tout azimut. Ce qui fait que l'humain dans tout ça s'est noyé, hein, s'est noyé dans la consommation et la connexion au ressenti. Voilà, moi j'accompagne des sportifs, même à haut niveau, qui ont très peu de connexion avec leur corps. C'est-à-dire, tu leur dis contracte ton fessier, rien. Contracte tes pecs, ton pec gauche par rapport à ton pec droit. Si tu fais un travail en unilatéral, ben non, il n'y a pas de connexion cerveau-muscle. Puis une personne, tu vois, qui se donne à fond sur un circuit training ou un entraînement, tu lui dis, bon, alors, tu t'es senti comment? Il dit, bah, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est vraiment la réponse typique. Je sais pas comment je me suis senti. Tu te rends compte? Parce que, en fait, il recherche dans ton regard la réponse. Il dit, bah, comment il fallait que je me sente? C'est
Oui,
toujours
je
une
comprends.
validation extérieure qui doit venir, quoi. Et ça, c'est assez terrible et ça se retrouve exactement comme tu l'as dit, dans tous les domaines de notre quotidien, on est toujours dépendant et donc fragile. Dans l'alimentation, on est dépendant de l'horaire que nous dit notre employeur. Vous devez manger à midi, c'est ça. Ou du dogme qui est installé concrètement, qui s'impose à vous, la règle d'autrui qui s'impose à vous, alors que vous devriez trouver votre propre règle. Par exemple, si vous n'avez pas faim le matin, vous ne mangez pas, comme tu l'as dit.
Tout juste, justement, tu parles à nouveau de fragilité et d'antifragilité. Est-ce que cette notion de correction posturale a un lien avec l'antifragilité dont parle Nassim Nicolas Taleb et dont tu as parlé toi au début du podcast, le fameux Nassim Nicolas Taleb, dont tout le monde parle à l'heure actuelle?
Évidemment, c'est un lien parce que le but d'une correction posturale, même le but en fait de l'apprentissage de moteur, sensorimoteur du corps, il repose justement sur ce concept de surcompensation face au stress. C'est-à-dire que c'est parce que votre bébé, vous allez le laisser ramper par terre et jouer avec des objets qu'il n'a jamais vus, le mettre dans des situations inconnues qui vont représenter des petits challenges à son niveau, qui va développer une certaine forme d'innovation dans son cerveau et dans son système nerveux. C'est là où le cerveau va avoir sa plasticité, c'est-à-dire créer des nouvelles routes, inventer de nouvelles choses. Le problème, c'est que de nos jours, on recherche le confort comme objectif, alors que le confort, il devrait être trouvé par sérendipité. C'est-à-dire, il devrait être trouvé par hasard, sans le rechercher. Mais le confort, maintenant, est, encore une fois, porté comme un objectif à atteindre dans cette société de consommation, où, en fait, tu travailles pour ne plus avoir de stress, ou avoir la plus belle maison, le maximum de chauffage et de climatisation, etc., et les plus beaux fauteuils, canapés, machin, pour, justement, fuir l'agent stressant. Ça, y a rien de plus mortifère. Parce que, nous sommes antifragiles et notre posture, justement, comme pour raccrocher les wagons, est l'aboutissement de l'antifragilité. Si le bébé commence à se mettre debout, tout son système vestibulaire va se mettre en branle. Là, il faut gérer tout d'un coup. J'ai une grosse tête parce que je suis un bébé. Il faut que je gère tout mon équilibre. Alors là, l'oreille interne et le cerveau se disent, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On était en train de ramper depuis quelques mois et tout d'un coup, on s'est mis debout. Et là, ce stress intense va créer des nouveaux circuits, va créer en fait la mobilité bipède. Donc c'est ça en fait. J'ai été soumis à un stress inconnu et ça m'a demandé une adaptation, ça a demandé l'innovation. Et sans agent stressant, vraiment fuir l'agent stressant, c'est mortifère, ça tue même les meilleurs. Il faut vraiment, il est temps en fait qu'on se rende compte que il y a une croissance post-traumatique. C'est très important de comprendre que les gens qui sont exposés à la guerre ou à des événements violents comme la perte d'un proche, certes, sur le moment, ça fait très mal, mais il peut en découler en tout cas, il en découle très souvent une nouvelle force. Et ça, c'est important de se le rappeler. Tout ce qui est négatif dans votre quotidien ne va pas avoir forcément une résultante négative.
C'est vrai que souvent on voit le stress comme le mauvais stress dans tous les cas et comme l'incertitude comme la pire des choses aujourd'hui. Alors que Taleb dit très bien au contraire, c'est la certitude, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'on stagne et on n'arrive pas justement à progresser au contact de la volatilité. Alors que c'est la
Mais
base
oui.
pourtant. Et c'est là, comme le dit très
Exactement.
bien, que l'entrepreneur est plus antifragile que le salarié. Parce que l'entrepreneur qui se plante, il apprend de son erreur. Alors que le salarié qui se plante, au final, c'est la boîte qui morfle. Lui, il n'a aucune conséquence directe sur son salaire, sur son emploi, sur sa sérénité mentale. Alors que l'entrepreneur, lui, voit les conséquences directes et s'améliore par la suite. Donc effectivement, le stress et l'incertitude est essentiel aujourd'hui.
C'est ça. Ouais, t'as utilisé le bon mot, c'était le mot de volatilité, hein, ces événements hasardeux qui nous entourent. Le hasard, on ne veut pas de nos jours. Nous, on veut la linéarité. On veut que ce soit plat, complètement plat. crédit à 20 ans, j'achète une maison, j'ai le même boulot toute ma vie, etc. Et comme tu l'as très bien dit, on peut comparer les boulots. Hein, un banquier, il est fragile parce que s'il perd son boulot, il perd son boulot, quoi. Et il faut qu'il aille voir une autre banque, mais peut-être que le système bancaire a fait faillite, et ben il sait pas quoi faire d'autre. Et il compare ça avec un taxi. Et le taxi, par contre, lui, il est dans le bricolage sans arrêt. Il a appris toute la map de la ville. Il pourrait être guide touristique. Enfin, il a plein de compétences. Et il s'y connaît en automobile. Il pourrait être garagiste. Il peut changer de quartier. Si un jour un quartier, il y a plus de touristes, il va faire son boulot de taxi dans un autre endroit de la ville.
Et puis, il peut continuer à 80 ans s'il veut pas s'arrêter de travailler, contrairement au salarié qui, lui, à partir de 50 ans, n'est quasiment plus employable, malheureusement.
Exactement. Ça s'appelle les optionnalités. Hein. Enfin, Taleb appelle ça les optionnalités. Il a plus d'options, donc il est plus antifragile, même si son salaire est fluctuant. C'est-à-dire, il est hasardeux, son salaire. Il y a des jours, il gagne beaucoup, des jours, il gagne très peu. Par contre, le banquier, c'est très linéaire, certes. Il a l'impression que c'est sécuritaire, mais en fait, pas du tout. Et les crises financières qu'on a connues et économiques nous le prouvent bien. On a mis en place des systèmes très, très, très fragiles. À la moindre perturbation, ils se cassent la gueule, au lieu de tanguer un petit peu et se renforcer.
Complètement. Et du coup, ça, maintenant, raccroché à la posture, comment on peut le mettre en place au quotidien pour être plus antifragile au niveau de la posture et pour être plus performant au niveau cognitif et intellectuel? Les exercices à faire, tu as des exemples à donner? Toi, j'ai un neurospike dans les mains, toi.
À côté de moi, ouais, juste là. C'est pas vrai, ça.
C'est pas vrai, il est un peu dur, j'avoue. Qu'est-ce qu'un neurospike? C'est une petite balle
avec des picots pour gros sensibiliser. Ouais, c'est notre ami Laurent Tifounet qui regarde, et je lui fais un gros coucou, qui est représentant de Neurospike France. Il y a un an, ben Neurospike.
Non mais je commanderai un ben Neurospike, effectivement. Mais pour l'instant, mon fils jouait avec celui-ci, donc je vais le laisser pour l'instant. Je vais attendre qu'il se stabilise avec celui-ci, puis moi je prendrai l'autre.
Génial.
Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut transposer l'antifragilité à la posture pour être plus performant au niveau intellectuel? Au niveau d'exercice, t'as des conseils à donner, des routines à donner, des exemples à donner? Sans trop spoiler ta formation, ouais. Bien évidemment, le but c'est pas de te dépouiller par rapport à ton programme, mais...
De toute façon, j'ai rien inventé. J'ai rien inventé.
Comme tout le monde.
C'est des principes qui étaient déjà là et c'est simple comme bonjour. C'est ça qui est bien. C'est à un moment où le gars il essaie de vous vendre un truc complexe, regardez ça d'un œil un peu suspect. À partir du moment où il vous parle de grands principes qui sont simples et qui vous propose juste une approche personnelle, ça paraît plus pertinent selon moi. C'est très simple. Moi, tu sais, une personne qui continue à m'inspirer et chez qui je suis allé me former, c'est Ido Portal.
Oui.
Et Ido, il n'a pas, si tu veux, cette approche très scientifique de la posturologie, par exemple. Il va pas t'expliquer le système nerveux, il va pas t'expliquer, même si je pense, enfin, pour l'avoir un petit peu échangé avec lui pendant son stage, là, au Portugal, quand je suis allé le voir, le gars, quand même, c'est un touche-à-tout. Il a une intelligence et une culture absolument incroyable. Tu lui parles de n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un grand fan de Taleb. Et Ido, même s'il explique pas tout ça, il passe pas par l'explication théorique, mais il passe direct à la pratique. En fait, il est sans cesse dans cette antifragilité-là. Sans cesse en train de mettre son corps en mouvement, dans des situations inconnues. Et c'est vrai que, il nous dit bien, à partir du moment où vous maîtrisez la chose, c'est sans doute que vous en avez plus besoin. Mmh. Alors lui, il a plein de petits jeux où, il se met contre le mur, il prend une balle de tennis, et le but, c'est de jongler avec une balle de tennis en tapant avec les phalanges. Donc la balle, quand vous essayez, vous allez arriver deux fois, elle part dans tous les sens, c'est horrible. Et lui, il arrive, bam, 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 bam.
C'est ça pendant un quart d'heure. Tu prends le mur et tu la retapes, en fait, comme de la boxe, au final, c'est ça?
Ouais, comme de la boxe, exactement. Okay. Ouais, c'est à voir, c'est génial, et je vous conseille de tester ça. Au début, c'est horrible. Puis à petit, on arrive à faire une dizaine de coups, mais c'est super chaud. Mais ça, au début, quand vous êtes débutant et que c'est dur à apprendre, c'est frustrant. La courbe d'apprentissage et ce qui impacte votre plasticité neuronale, c'est là où elle est le plus forte, en fait. C'est cette frustration-là qui est extrêmement importante. Et Andrew Huberman, qui est aussi un ami d'Ido, qui est le neurophysicien de Stanford, l'explique très bien. La plasticité neuronale, ça marche pour tous et à tout âge, mais s'il y a surtout deux grands facteurs qui sont respectés, c'est que ça provoque une très grande frustration et que vous jouez votre vie. Donc, jouer sa vie, c'est un petit peu dur de nos jours. Mais la très grande frustration, on peut tous s'en apercevoir. Par exemple, vous essayez d'écrire de la main gauche ou de jouer du tennis de la main gauche. Ou jeter un caillou de la main gauche, vous sentez que c'est horrible. On essaye, comme dirait Franz Bosch, de mettre plus d'attracteurs. Donc, d'un coup, on fige les jambes, on fige certains points qui ont des fluctuations et on jette comme un robot, ou comme les gamins qui commencent à faire du patinage pour la première fois et qui ont les jambes toutes raides parce qu'ils veulent figer en fait les articulations pour pas qu'il y ait de fluctuations. Et c'est super frustrant, on n'y arrive pas, c'est chiant, le gamin il pleure, il crie sur sa mère, il dit j'arrive pas, j'en ai marre, maman, etc. Et c'est là en fait que tout se construit au niveau postural, au niveau mouvement. Pour jouer sa vie, si sa vie en dépend, il prend l'image de la grenouille qui attaque une libellule et qui rate sa proie. Tu vois, elle saute, puis elle tire la langue, et elle rate la libellule et elle tombe comme une bouse à côté. Et alors là, c'est voilà, c'est si je mange pas, bah, c'est grosse frustration. Et en plus, si je mange pas, je meurs.
Je tiens à dire donc que là, tu l'as très bien mimé à la caméra.
J'espère qu'il y a des gens qui auront la vidéo. Mais c'est exactement ça. Donc, comment on fait pour notre posture? Comme j'ai dit que ça dépendait du sensorimoteur, mettez-vous dans une situation qui requiert l'utilisation d'un de vos sens. Alors, vous pouvez l'isoler. Donc, par exemple, la vue, ou le but du jeu, ça va être, si vous voulez travailler la convergence ou la vision périphérique, on va faire les deux. Vous approchez votre doigt ou votre stylo et vous essayez de loucher dessus au maximum près, le plus près possible. Ça va pas créer peut-être de trop de frustration, ça, mais ça fait entraîner justement le système visuel. Sinon, vous vous mettez parallèle à un mur, de profil à un mur, et sur le mur, vous mettez des, je sais pas moi, des post-it ou quelque chose de visuel, mais que vous voyez par votre vision périphérique. Vous regardez tout droit et vous le voyez juste du coin de l'œil, des points rouges, voilà, des post-it, etc. Et vous essayez de les toucher sans les regarder. C'est-à-dire, vous les voyez juste du point de l'œil, vous essayez de les toucher. Et vous regardez si vous les avez bien touchés. Donc, vous touchez, et là, vous regardez, vous checkez. Ça, c'est un peu frustrant. Quand on y arrive, on dit, oh, punaise, j'arrive pas. Je suis tapé à côté, etc. Là, il y a une petite frustration. On essaye de s'améliorer, etc. Ben là, on travaille son système visuel et sa vision périphérique. Idem, quand on fait haut, bas, au niveau du système visuel, on sait que c'est, voilà, certaines portions du cervelet qui sont activées parce que quand le bébé il lève la tête justement il regarde vers le haut pour la première fois c'est le cervelet qui est plus activé des petits jeux après de proprioception vous essayez de vous toucher le nez avec le doigt en fermant les yeux et si vous tapez un peu à côté c'est frustrant vous dites punaise j'arrive pas trop etc avec le petit doigt avec voilà en touchant le nez en prenant son temps il y en a mille apprenez à jongler. On apprend à jongler ou à faire de la corde sautée, on apprend la coordination. On travaille beaucoup sur la proprioception, où est mon corps dans l'espace. Et au début, quand on n'y arrive pas, qu'est-ce que c'est frustrant de pas arriver à jongler. Donc, vous pourriez jouer avec ça, avec le système auditif, avec le vestibulaire, encore une fois, avec l'équilibre. Vous essayez de faire de la stack line pour la première fois, c'est horrible. On tombe tout de suite, on n'arrive pas à faire deux pas en équilibre. Ou juste de marcher sur une poutre. Si vous avez un petit peu le vertige, tout de suite, ça va jouer, ça va tanguer. Il y a, à partir du moment où c'est simple et que ça joue sur les grands sens, et que c'est difficile à mettre en place pour vous, l'exercice est simple, mais c'est difficile à accomplir, vous pouvez être sûr que le cerveau travaille.
En plus, moi qui me reste principalement des cadres, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut le faire au travail très facilement. À part la poutre, bien évidemment. Mais tout ce qui est post-it, effectivement, on colle des post-it sur son mur, on met des mots pour dire qu'il y a des mots, pour pas passer, malheureusement, pour un abruti par rapport à ses collègues, parce que c'est souvent le cas. Et ça prend 30 secondes à chaque fois.
C'est ça.
Vrai que c'est merveilleux. Mais, en fait, encore une fois, tu l'as dit très bien, le cerveau est plastique. Et c'est pas en pratiquant une fois de temps en temps de façon intense que ça va stimuler la plasticité, au contraire. C'est vraiment en étant très cohérent et très, en étant sur la durée, tout simplement. Faut mieux faire 30 secondes par jour, même si c'est que 30 secondes, plutôt que 10 minutes une fois par semaine. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on va recabler le cerveau au niveau des neurones et qu'on va créer de nouveaux chemins neuronaux.
T'as tout à fait raison. C'est vraiment la routine à mettre en place qui va durer 5 minutes, mais que vous ferez tous les jours, qui sera beaucoup plus efficiente que le faire 30 minutes une fois par semaine. Ça, c'est clair et précis. C'est comme les bains froids. Tu sais que je parle beaucoup d'hormèse, renforcement par le froid, etc. Les gens qui font un gros bain froid une fois par mois, ils vont aller en rivière, ils vont se baigner, ça va être très froid, ça va être super. Ça va être super expérience pour eux. Et puis, au niveau de l'amour propre, ça va leur apporter beaucoup, c'est génial. Par contre, par rapport au renforcement du froid, ce sera beaucoup plus bénéfique de faire la petite douche froide tous les matins. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à chier une galette, comme dirait Arthur dans Kaamelott. C'est exactement ça. Donc tu as raison. C'est les petites routines qu'il faut mettre en place. Il faut être discipliné avec soi-même, mais c'est apprendre à se respecter. C'est, comme dirait Mathieu Boulay, encore une fois pour le citer, notre ami, on se tient pour les autres. Il parle de posture, donc c'est très imagé, mais on se tient pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler sur soi, d'abord être en accord avec soi-même et en paix avec soi-même pour pouvoir inspirer les autres et prendre soin des autres. Et ça, c'est très important et c'est pas du tout égoïste, se réapproprier cet amour propre-là, qui manque beaucoup de nos jours.
Mais en parlant de ça, transition tout trouvée, tu dis souvent en podcast une phrase qui m'a beaucoup marqué, que j'utilise maintenant quasiment au quotidien, sans gros mot, un grand mot, pardon. Tu dis souvent que la médiocrité, c'est le pire des égoïsmes. Et j'adore cette phrase, peux-tu nous l'expliquer en direct, s'il te plaît?
Ouais,
Elle est
la
très
médiocrité,
puissante.
c'est ouais, et elle est souvent un petit peu mal comprise, ou en tout cas, il faut pas le comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent sans doute faibles de nos jours, qui vont se dire, bah alors moi, si dans tel domaine je suis médiocre, je suis égoïste. Non, c'est pas vrai, je suis pas égoïste. Tu vois, j'entends bien que certains peuvent avoir ce forme de réaction, et pourtant. La médiocrité et le plus haut taux d'égoïsme, ça veut justement dire que si vous acceptez de laisser entrer en vous, chez vous, la médiocrité, vous allez rayonner cette médiocrité-là auprès de gens que vous aimez, auprès de tout l'entourage qui vous suit, et vous allez induire cette médiocrité-là, que vous le vouliez ou non, que ce soit inconscient ou non. Et c'est très important de repenser justement à ces habitudes, à ces pratiques, à ces pensées et aux mots qui sortent de nos bouches, pour voir s'il n'y a pas une trace de médiocrité quelque part. Je prends l'exemple de ma tante, la sœur de ma mère, que j'aime beaucoup, hein, je l'aime tendrement, mais c'est pas parce que je l'aime que je peux pas déceler certains défauts chez la personne.
Bien sûr.
Et j'adore les Américains qui disent I love you, but I don't like you.
Oui,
C'est-à-dire,
tu l'as
je
dit, elle est
t'aime.
très parlante cette phrase, ouais. Elle est
Allez, elle est
géniale.
géniale. Je t'aime comme une personne de ma famille. Mais je pourrais pas être ami avec toi, en fait.
Ouais, moi, elle fait parfaitement écho à ma mère, c'est triste à dire, j'aime de tout mon cœur, mais je pourrais pas être ami avec elle. Très clairement.
Ouais, c'est très fort.
C'est très fort, ouais.
Et donc, pour revenir à ma tante, tu vois, quand elle vient ici, chez nous, elle a des phrases qui sont très impactantes. Elle a des problèmes de santé, elle a une hypothyroïdie, elle a des douleurs, etc., machin. Et dire, oh, c'est pas grave, c'est la vieillesse, c'est comme ça. Et puis, avoir mal, c'est normal, etc. Et elle dit des phrases haut et fort comme ça, extrêmement fortes. Mais elle se rend pas compte que ça impacte le cerveau des autres. C'est-à-dire, ça impacte que vous voyez ou non, votre esprit s'imbibe de ça. Et les Américains disent souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Il y a un petit peu de ça parce que les propos que vous entendez, vous en faites votre nouvelle norme. Faites gaffe aux propos que vous utilisez, à cette médiocrité qui pourrait sortir de votre bouche, et aussi cette médiocrité que vous vous infligez à vous-même, dans ce que vous mangez, dans comment vous bougez, comment vous traitez votre corps, comment vous traitez votre esprit, vos habitudes de sommeil. Et en fait, apprendre à se respecter, vraiment, se dire qu'on est un temple sacré, aussi bien au niveau du physique que du mental, parce que il suffit d'étudier un peu la physiologie pour se rendre compte à quel point on est merveilleux, vraiment. Plus profonde cellule qui est en nous, c'est absolument incroyable d'être arrivé à ce qu'on est. On est absolument une machine merveilleuse, et rien que pour ça, faut se respecter comme un temple sacré. Et comme je le dis souvent, dans un temple sacré, que ce soit une église, une synagogue, une mosquée, on ne rentre pas avec des souliers sales. On ne salit pas ces temples. On parle doucement, on est respectueux. Ben, pour moi, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas rentrer du McDo et du Nutella dans mon corps. C'est pour respecter un temple qui est sacré. Je n'accepte pas la médiocrité pour ne pas impacter les gens que j'aime, parce que c'est une voie, la voie du samouraï moderne, qui est certes très solitaire, mais qui impacte obligatoirement les gens qui nous entourent, par le rayonnement que vous avez. Donc, si vous rayonnez quelqu'un qui est à sa place, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, vous êtes un thérapeute. Vous influencez, obligatoirement, consciemment ou non, les gens qui vous entourent. Donc, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme. On pourrait aussi dire que prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme.
Bien sûr. Et avant de revenir à cette notion de samouraï moderne, parce que j'ai commandé le livre, mais je ne l'ai pas encore lu, suite à une vidéo que tu as faite dessus, donc je t'en parle juste après. Mais avant de revenir sur ce livre-là, qui m'intéresse fortement, je rebondis rapidement par rapport à ce que tu as dit. Rien que le fait de dire je vais essayer quelque chose peut induire la médiocrité, malheureusement, parce qu'on va revenir à cette notion d'entropie et de négentropie. Et justement, le fait de vouloir essayer va faire en sorte de placer le corps dans une posture un peu de je vais échouer. Et du coup, il va pas louer assez d'énergie pour réussir ce qu'on va entreprendre. Et du coup, rien que des petits mots comme ça, donc qui sont pas aussi durs que ceux que ta tante emploie ou que ceux que mon grand-père emploie aussi, parce qu'il est assez pessimiste par rapport à la vie en général, mais rien que des petits mots comme ça peuvent induire malheureusement de la médiocrité au quotidien. C'est compliqué parce que c'est inscrit en nous, c'est terrible à dire, mais il faut réussir à se corriger soi-même. Je sais pas, je vais essayer, c'est « je vais le faire ». Tout simplement. Et même si on échoue, c'est pas grave, au moins on essaye, on se place dans les bonnes conditions, au niveau du cerveau, au niveau du corps, au niveau de l'anatomie, pour réussir au moins. Donc déjà, le premier pas est fait.
Et tu as tout à fait raison. Il faut pas voir l'échec comme, en fait, il faut pas voir la réussite ni l'échec, l'aboutissement, la résultante comme l'objectif. En fait, la récompense et le processus. Et quand je dis la récompense et le processus, ou le processus et la récompense, j'emploie le verbe être, c'est-à-dire EST. Le processus, c'est la récompense. C'est dans le fait de faire qu'il y a la récompense. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de One Piece parce qu'on est des gros fans de One Piece et ça me fait très plaisir de parler de ce manga. Et on parlait du fait des gens qui commencent pas ce manga parce qu'il y a 100 tomes, plus de 100 tomes.
C'est vrai.
Donc, la personne dit « Oh non, mais c'est trop long, je vais pas commencer maintenant, j'en ai pour combien d'années ?» Voilà, les réflexions qu'on entend. Mais le kiff que vous allez avoir, il est pas au bout du 100e tome. Il est pas dans le fait d'achever la lecture des 100 tomes. Le kiff, il est tout de suite, dès la page 1, c'est génial. Et ça, ce processus-là, il est complètement mis de côté de nos jours, aveuglé par la sacro-sainte récompense du salaire à la fin du mois, du monde quantitatif, des objectifs à atteindre, de vente, des notes à l'école. On porte en fait l'objectif à atteindre comme le sacro-saint. Au lieu de prendre plaisir, au lieu de juste faire la chose. Et encore une fois, pour citer Ido Portal, « There is only the doing ». Il n'y a que le fait de faire qui compte. Donc, que vous échouiez, que vous réussissiez, on s'en fout. Et le cerveau, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la plasticité neuronale, c'est encore presque, je vais pas dire plus important d'échouer, mais au moins aussi important que réussir. Dans tous les cas, il est gagnant, parce que réussir, ça va faire, voilà, sécrétion de dopamine, ça va nous pousser à vouloir recommencer. C'est ça la dopamine, donc, qui nous pousse à recommencer la chose encore et encore, parce que c'était cool. Mais si on échoue, frustration, plasticité, invention, complexité. Donc, tout est bon à prendre. Mais c'est le fait de faire qui est cool. Et pas le fait d'accomplir la chose. Donc, voilà, je peux que vous encourager à suivre ce conseil.
Et en plus, certaines théories en neurosciences mettent en évidence le fait que le cerveau a des modèles mentaux. Je sais pas si tu connais un peu cette théorie-là. Des modèles du monde qui l'entoure, et c'est que par l'échec qui confronte ces modèles à la réalité des choses. Et c'est uniquement que grâce à l'échec, justement, qui peut repositionner un peu ces modèles mentaux et fitter à la réalité. Donc, sans échec, grosso modo, et sans explication de l'échec aussi, très important, on ne peut pas progresser. Et malheureusement, ça, à l'école, on ne l'apprend pas assez.
C'est clair. C'est l'un des plus grands neuroscientifiques actuels, c'est Carl Friston. Oui. Et Carl Friston, j'en parle d'ailleurs dans Connexion. Carl Friston, il nous explique justement, comme tu l'as très bien dit, que le cerveau, il se fait un modèle du monde, il se fait une norme. Et à partir de cette norme qui est basée sur ses expériences passées, il va faire des projections. Il va prévoir des choses, prévoir comment il va ressentir en fait la prochaine milliseconde, la sensation de douleur, sensation de chaleur, de froid, etc. Il va prévoir la chose chaque milliseconde. Et son but, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est limiter l'entropie, limiter la déperdition d'énergie. Donc, il va vouloir absolument que la prévision colle à l'observation, qu'il y ait le moins de différence entre les deux. Donc c'est exactement ça. Et s'il y a des grosses différences entre prévision et observation, ce qu'il a nouvellement observé va devenir la nouvelle norme, va un petit peu chambouler le modèle qu'il a dans la tête. C'est-à-dire bon, finalement, tu vois, si tu touches une poêle qui est très très chaude ou tu t'es fait cuire tes œufs la veille, tu t'es un peu brûlé, le cerveau il a enregistré poêle égale brûlure. Le lendemain, tu passes à côté, la poêle est froide, mais sans faire exprès, tu touches la poêle. Tu vas faire Ah non, c'est froid là. Donc tu sais, tu auras réagi comme ça, mais en fait c'était froid. Il va dire ah mais en fait finalement et là en fait tu réagis. Bon, c'est un exemple un peu gros, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire les normes vont à chaque fois changer par les expérimentations.
Mais typiquement c'est comme le bébé ou l'enfant plutôt qui va tester la gravité en laissant tomber ses couverts de la table. L'idée c'est pas provoquer les parents, c'est pas les embêter, c'est vraiment tester la notion de gravité, voir si elle s'applique partout ou pas. Et du coup, il remarque que oui, au bout de 40 verres cassés, comme mon fils, il remarque que oui, effectivement, la gravité s'applique partout. Maintenant, il les jette en l'air, et la gravité s'applique encore, malheureusement, pour nous.
S'il arrive à jongler, tu m'appelles, hein, on l'inscrit à quelque chose.
Avec grand plaisir. Il n'est pas encore à ce stade-là, mais avec grand plaisir. Pour revenir un peu à cette notion justement de plaisir dans l'action, dans le fait de faire, au niveau du chemin, on va dire, il y a une notion que j'aime beaucoup, qui m'est enseignée par un ami à moi qui est coach, notamment au niveau des sportifs et également des entrepreneurs, qui m'a dit qu'il faut arrêter de raisonner en termes d'objectifs de résultats, mais plus d'objectifs de maîtrise. Plutôt que de se dire, au sonneau, je vais courir à 100 mètres et mon but, c'est faire moins de 11 secondes, je me dis non, je me concentre sur ma foulée. Je veux avoir une foulée qui soit très fluide et comme ça, on revient dans l'instant présent. Peu importe le résultat, on améliore des points très précis et on revient à cette notion de dopamine parce qu'on va chercher justement à améliorer un élément au fur et à mesure de la course qu'on va faire. Et je trouve que ce point de vue-là est très important à avoir au quotidien, cette notion de maîtrise et non pas de résultat.
Exactement, c'est aussi une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est que si vous partez dans votre cheminement de vie, en tout cas, si vous êtes, on imagine qu'on est tous sur un chemin, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, non, pas intéressant, mais c'est beaucoup plus pertinent de savoir délimiter les bordures de la route plutôt que de garder en vue le sommet de la montagne qu'il faut atteindre. Si vous gardez en vue le sommet de la montagne à atteindre, vous allez sortir de la route, marcher dans des crevasses, vous allez vous casser la tête. Alors que délimiter le chemin, c'est maintenant et tout de suite, et ça rassure. Ça rassure le corps. C'est encore une fois, c'est une histoire de stabilité. C'est à partir de là, on peut construire des choses. Délimiter le chemin, ça passe notamment par le physique, la posture, etc. Mais ça parle aussi des valeurs qui nous sont sacrées et de la philosophie qu'on veut mettre dans notre vie. Donc, cet exemple de la course à pied, il est très bon parce que c'est exactement ça. T'as une course à pied, t'as un objectif d'atteinte d'un résultat, de ligne d'arrivée, d'une distance ou d'un chronomètre. Mais t'as aussi tout un processus de course, un processus mécanique, biomécanique. Tu peux très bien progresser, non pas en regardant ton chrono, mais en gérant au mieux ta respiration, en apprenant à gérer la respiration par l'effort ou en améliorant ta foulée. Et là, comme l'histoire de lire One Piece, c'est kiffant tout de suite. Les résultats sont, en fait, le plaisir que vous allez prendre, le plaisir ou la frustration, ou le truc de... Mais on va quand même y retourner, hein. C'est comme les trucs qui sont un petit peu chiant, on aime bien y retourner parce qu'on veut réussir. Et ben tout ça va se mettre en branle si vous êtes focalisé sur justement cet instant présent.
Puis là, c'est là que c'est intéressant aussi à raccrocher avec la posture, parce que cette notion de maîtrise, justement, va induire le fait qu'on va pratiquer tous les jours. Le résultat, effectivement, ça aura une bonne posture, mais c'est tellement flou pour les gens, ça veut dire quoi? Et c'est tellement lointain. Du coup, le cerveau, tout ce qui est lointain, il peut pas l'imaginer. Très clairement, à l'époque de nos ancêtres, c'était je vis durant 24 heures, après j'avise, quoi. Je sais pas ce qui va se passer demain. On n'est pas fait pour faire des plans sur la comète. Donc se dire grosso modo, je me concentre sur mon Eurospike, qui n'en est pas un, j'ai compris, à faire mon petit mouvement 30 secondes par jour, à bien le faire, et là on peut s'améliorer. C'est comme aussi une prise de parole en public. Se dire je vais faire une bonne prestation, ça ne sert à rien. Par contre, je peux me dire je me concentre sur ma respiration. Là, uniquement, c'est la respiration et les silences. Et comme ça aussi, on fait une pratique délibérée et on voit sur quoi on peut s'améliorer. Plutôt que faire un patchwork global de tous les éléments améliorés, au final, on n'améliore rien du tout. Ou si on améliore, on ne sait pas où on a progressé. Alors que si on isole un mouvement, un geste, un élément, on peut progresser dessus, pardon, et se rendre compte de la progression.
Bien sûr. Ben, c'est comme notre histoire d'épaule plus haute que l'autre, etc. Si vous pensez, si vous mettez uniquement comme objectif de vous tenir droit ou de vous tenir à l'épaule alignée, etc., tous les jours, vous regardez dans le miroir et tous les jours, tac, vous remettez, tac, vous remettez, tac. Parce que vous êtes focalisé sur le résultat et l'objectif, ça ne marchera pas et vous serez vraiment, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez avoir un dégoût même de vous-même. Alors que si vous oubliez ce résultat, en tout cas, vous le mettez dans un ordre de priorité qui est secondaire et que vous bossez sur tous les patrons moteurs qu'on a décrits, le système sensorimoteur, vous fassiez suivre par un posturologue, et ben chaque jour, ça va être des jeux, des exercices qui vont vous faire progresser au quotidien et qui vont vous faire juste aimer le processus.
C'est ça, et c'est le plus important, c'est d'aimer le processus. J'ai un élément sur lequel j'aimerais revenir avec toi, avant ça on va parler du livre Le Samouraï Moderne, c'est l'élément des ondes. Donc déjà, le livre du Samouraï Moderne, après le côté comment les ondes, parce que tu en as parlé dans le podcast que tu as sorti il y a déjà 15 jours, je dirais, comment les ondes influent sur la posture. Donc déjà, le bouquin, de quoi il parle, parce que je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde qui m'écoute aujourd'hui et qui nous écoute aujourd'hui, et après cette notion d'onde et du téléphone dans la poche qui peut induire malheureusement une mauvaise posture et donc une mauvaise cognition par effet domino.
Joie. L'éthique du samouraï moderne, c'est un livre qui est écrit par Patrice Franceschi, qui est un descendant, il nous est contemporain, il est toujours vivant ce monsieur, ce grand monsieur, qui est un aventurier, alors vous lisez sa bio, vous hallucinez, c'est un espèce de Mike Horn humaniste qui allait libérer qui s'est engagé militairement pour les peuples pauvres dans des régions où il y avait la guerre, enfin, il voyage sur son bateau 300 jours par an, il a une vie incroyable. Il a une vie d'aventurier, l'aventure au vrai sens du terme, c'est-à-dire pas le voyage, mais là où on joue sa peau. Et au-delà de ça, c'est un philosophe. C'est le grand descendant des stoïciens. C'est le grand descendant de Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Il a une prose qui est magnifique. Et il a écrit ce petit bouquin qui s'appelle L'éthique du samouraï moderne, où il se fait passer, en fait, plus ou moins pour un vieux maître japonais qui donne des conseils à ses disciples. Et c'est génial, parce que au début, il nous raconte une histoire, on se dit, mais il a vraiment existé ce maître japonais, on y croit vraiment, tu vois. Et en fait, non, c'est lui qui a inventé toute cette histoire-là, mais elle est belle quand même. Et en fait, c'est sous forme de précepte, c'est-à-dire, chers élèves, voici 20 choses qui sont importantes. Voici 20 choses qui sont essentielles. Voici, et il te fait des préceptes comme ça, qui durent 4-5 lignes, et qui sont d'une puissance comme les pensées de Marc Aurèle, où il te faut 2 lignes pour te retourner le cerveau et changer la vie. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, je me suis dit, mais en fait, il met en mots, parfaitement écrit, tout ce que j'ai ressenti au fond de moi ces 15 dernières années. J'ai surligné dans toutes les couleurs, toutes les lignes. Le livre, je l'ai acheté en 3 exemplaires, je l'ai offert à au moins 3 personnes, parce que c'est énorme. Voilà, cette philosophie stoïcienne qui nous dit bien que les choses qui nous entourent, les événements, par cette volatilité que décrit Taleb, on ne peut pas les contrôler. Donc, accorder de l'attention et de l'énergie à des choses qu'on ne contrôle pas, c'est une vaine aventure. Ce qu'on peut contrôler, c'est soi-même. C'est ce qui nous arrive à l'intérieur de nous, c'est se découvrir soi-même, c'est être en paix avec soi-même. Et donc, contrôler ses actes, être exemplaire par rapport à ses valeurs, ça, par contre, c'est dans la mesure de mes capacités. Donc, je vais mettre mon énergie là-dessus. Et en fait, les stoïciens, c'est ça. Quand on dit « je suis resté stoïque », bon, on a un peu changé un petit peu le sens des mots au fil du temps et c'est devenu un petit peu péjoratif de dire ça. C'est genre, vous êtes sans émotion, quoi. Mais
100 fois, on est resté quoi?
Voilà. Alors que non, rester stoïque, ça veut dire « ok, il y a un événement qui m'est arrivé à l'extérieur, j'ai réagi, je peux avoir une réaction émotionnelle, il n'y a pas de problème, mais j'ai tout de suite su me recentrer en prenant du recul par rapport à cet événement qui n'est pas moi. » Et le problème de nos jours, c'est qu'il y a un énorme amalgame identitaire où les personnes qui, malheureusement, vivent beaucoup à travers les écrans, les réseaux sociaux et Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez, sont dans la diversion constante de ne pas regarder au fond d'eux. Il y a toujours une fenêtre vers l'extérieur. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de regarder au fond de vous. Ces fameuses informations afférentes, hein, les informations du corps dont on parlait tout à l'heure. Quand on demande à quelqu'un comment tu te sens, il dit ben, je sais pas. Et c'est exactement ça. Et plus on est dans la diversion de l'esprit, moins on va avoir justement cet alignement corps-esprit. Donc, alignement, je choisis ce mot voilà, à dessein parce que ça fait un lien avec la posture, évidemment. Donc, cette philosophie-là du stoïcisme, elle est très puissante et elle est totale. Elle est totale dans le sens où elle s'applique à tous les pans de notre quotidien et surtout, elle n'est pas sémantique. C'est-à-dire, les stoïciens, c'était pas des gens qui débattaient sur le sens des mots. Au-delà, en comparaison des autres philosophies qui sont à définir, à débattre sans fin du sens du mot « qu'est-ce que le beau ?»« Qu'est-ce que le beau ?»« Qu'est-ce que le vrai ?» etc. Et donc, ils vont te pondre des bouquins entiers, des débats sans fin, etc. Ce qui peut être très intéressant. Hein. C'est-à-dire, Hobbes, il a dit que, Kant a dit que sur ceci, sur cela, voilà, c'est intéressant. Les stoïciens disent non. Le beau, c'est le beau. Si vous savez pas ce que c'est le beau, regardez dans votre cœur 2 minutes, puis vous allez savoir ce que c'est le beau. Une fois que c'est réglé, ça, cette notion-là, basta. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu te comportes? Et en tout temps, est-ce que tu es juste? Parce qu'il n'y a que le juste qui compte. Voilà, c'était directement dans le comportement, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, cette philosophie-là. Oui, voilà, donc une grosse lecture que je recommande.
C'est très pragmatique comme approche, le stoïcisme.
Ouais.
J'aime beaucoup aussi, effectivement, ouais. Et puis du coup, la posturologie, on est en plein dedans, parce qu'on peut agir dessus directement. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant, et comme tu le dis, on reprend la pyramide de l'apprentissage qui est à la base de notre échange, ça sert à rien d'agir directement sur les compétences quand la base n'est pas là, parce qu'elle n'est pas atteignable pour l'instant, c'est sur une compétence. Et tant qu'on n'a pas fait le pas d'agir sur son coup, on peut agir avec le cercle d'influence, qui est assez connu dans le domaine stoïcique. Du stoïcisme, voilà, c'est mieux. Je perds un peu mes mots, désolé, j'ai un peu soif, c'est pour ça. Tant qu'on n'agit pas sur la base avec ça, on ne pourra pas atteindre le sommet. C'est comme pour les compétences, tant que le cerveau n'est pas réglé, on ne pourra pas chercher à développer réellement ses compétences, à les exprimer réellement. Ça ne sert à rien. Et donc, on revient un peu à cette notion de posturologie, de pyramide de l'apprentissage, grâce au stoïcisme là aussi.
Oui, bien sûr.
Et
bien
maintenant...
sûr. Le stoïcisme, c'est... Oui, pardon.
Non, vas-y, dis-moi, Pierre, vas-y.
C'était juste pour conclure l'histoire, que c'est que je me rends compte que plus j'avance dans mon travail, le stoïcisme, je l'ai découvert après la naturopathie, après cette voie voilà, que j'ai choisi d'être thérapeute, d'aider les autres. Plus j'avance, plus je me rends compte en fait que tout mon travail, ça a toujours été de lutter contre la résignation. Ce qui me fout droit, en fait, c'est ce sentiment de résignation chez les gens. C'est-à-dire, je ne peux plus rien y faire. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est... Et on le doit beaucoup, malheureusement, hein, à la génération de nos parents, qui ont connu des périodes, des temps très faciles, où il y avait de l'emploi partout, l'économie était florissante, les Trente Glorieuses, etc., et les temps faciles créaient des gens faibles, malheureusement, et des gens malléables. Et les gens malléables, ben, ça veut dire que le journal de France 2 et BFM TV, c'était vérité établie. Ce qui est dit à la télé, je ne le remettrai jamais en cause. Ce que dit mon médecin, ce que dit une personne en cravate, c'est la vérité. Je l'ai entendu, c'est vrai. Et ça ne participe pas à l'autonomie des gens. Ça ne participe pas à créer une pensée claire et une pensée vraiment qui est uniquement ma propre vérité. Et en découle la résignation, c'est-à-dire on m'a dit que à tel âge le diabète et le cancer c'était normal, donc je considère que c'est comme ça. Et puis je me laisse aller, tu vois, c'est se laisser aller, c'est cette résignation-là sur la vie et cette volonté de ne pas dire non. C'est assez terrible. Et je pense en fait que si je dois résumer mon travail, ce serait ça. C'était cette lutte infinie contre la résignation.
Mais c'est très compliqué parce que moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Du coup, par rapport à des problèmes familiaux, peu importe. Et du coup, j'ai vraiment aussi ce gap générationnel entre mes grands-parents et moi-même. Mes grands-parents ont connu vraiment l'après-guerre, pile poil l'après-guerre, ce qui sont en 44 et 42. Et du coup, mon grand-père a cette notion de la vie. Effectivement, à l'époque, c'était très simple pour lui. Il était carrossier, il claquait la porte du boulot, il était démarché par 50 garages pour être carrossier chez eux. Il a vu que le marché du travail changeait et que c'était très compliqué aujourd'hui grâce aux informations, plutôt, pardon, à cause des informations. Et moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait un master en ressources humaines, il m'a dit, arrête tout, deviens conducteur de train parce qu'il y a du métier. J'ai dit, mais non, mais c'est pas ce que je veux faire, quoi. Et du coup, la peur aussi est générée par cette notion d'être, en fait, les gens sont trop dépendants aujourd'hui, en tout cas nos parents et grands-parents, d'une société qui les a quasiment maternés depuis le début. Et ça, c'est terrible. Et faire changer ces gens-là, c'est très compliqué. Mon grand-père a beaucoup de problèmes de santé, malheureusement. Et je lui ai offert très récemment, il y a environ, je dirais, un an de ça, quasiment. Le livre, c'est Glucides qui menacent notre cerveau, de Perlmutter. Parce qu'il mange que des glucides, que du pain blanc, bref, que des saloperies. Il l'a jamais ouvert. Il l'a rangé. C'est terrible. Et c'est vraiment terrible de faire changer ces gens-là, parce que du coup, tout leur paradigme aussi s'écroule. Du coup, ils perdent leurs repères. Ils veulent pas s'ouvrir potentiellement à d'autres éléments, parce que ça remettra en question tellement de pans de leur vie, tellement d'erreurs qu'ils ont potentiellement fait, qu'ils peuvent pas se permettre aujourd'hui, à leur âge, malheureusement, de se dire non, j'arrête. Et je bascule. Là où ma grand-mère a plus de l'ouverture d'esprit, et elle met en place des choses. Donc c'est pas évident, je trouve. Et quand on a cette ouverture-là que tu as, toi, Pierre, c'est compliqué d'avoir des personnes auxquelles on tient, et qui veulent pas changer. C'est très compliqué.
Exactement.
On a les outils, on a tout, mais ils veulent pas comprendre. T'as beau prendre tous les chemins possibles imaginables, voir leurs problèmes de santé, leur obésité, leur le fait qu'ils soient toujours malades. Alors que moi, je vais très bien, je suis en pleine forme. Mon fils n'a jamais été malade une seule fois parce qu'il mange que des bons produits. Et ils veulent lui faire manger du chocolat avec du sucre. Ça n'a aucun sens. Ils veulent lui faire regarder la télévision, mais ça n'a aucun sens. Alors qu'il va très bien. Mon fils n'est jamais malade, il est en pleine forme. Mais non. Parce que les autres enfants regardent la télévision et mangent du sucre, ils devraient le faire. Et parce que nous, on le prive de sucre, on est des mauvais parents, tyranniques et sadomasochistes. Et c'est terrible d'arriver là, je trouve. C'est terrible. C'est terrible. Le jugement des autres, c'est terrible aussi par rapport à ça.
T'as mis le doigt sur vraiment un point qui est fondamental, là. C'est quand je tiens à quelqu'un, comment je peux l'aider? Et le taux, en fait, d'interventionnisme qu'on doit avoir vis-à-vis d'autrui. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que je reviens toujours au stoïcisme, qui dit « travaille sur toi-même ». Tu sais, dans l'être à Lucilius, ça commence comme ça. Tu me dis que tu travailles sur toi-même et que tu t'améliores et que tu fais des lectures, etc., et que tu lis, que tu bouquines. Rien ne me fait plus plaisir que de lire ça. Parce qu'il n'y a que travailler sur soi-même. Et je pense qu'il faut être exemplaire, et pour en revenir à cette médiocrité qui est le plus haut taux d'égoïsme, et donc l'amour propre et le travail sur soi-même qui est le plus haut taux d'altruisme, c'est exactement ça, c'est que les gens, autrui, on ne le changera jamais. On ne les changera que par l'inspiration, les inspirer par l'exemplarité que nous sommes. Si tu viens avec tes gros sabots, et moi ça a été des déboires et des échecs à chaque fois, c'est-à-dire tu es en train de faire A, mais je t'explique que si tu fais B, c'est 20 fois mieux et ça marche 10 fois mieux. Et la personne, elle dit « Ouais, d'accord. » Et tu la vois, elle continue à faire A. Elle continue tous les jours et c'est horrible. Tu dis « Mais punaise, je t'ai expliqué. » Non. Eh bien, ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est dans l'apprentissage humain de faire ses propres erreurs, que ce soit frustrant et qu'on apprenne, et que même si au bout du cours, au bout du compte, ils apprennent pas, et même s'ils partent, s'ils nous quittent, moi j'ai perdu mon papa parce qu'il faisait n'importe quoi avec sa santé, et ben finalement ça renforce le système, ça renforce, même si la famille, on a connu une épreuve terrible, ben la nature elle s'en fout, la nature elle continue et elle se renforce par rapport à ça, et ça fait que ma sœur, ma mère, mon frère, moi, on a pris beaucoup en maturité. La perte de notre père, ça nous a rendu quelque part plus fort, même si c'était une épreuve terrible, et même si on aimerait qu'il soit encore parmi nous. Et ben, malheureusement, il n'y est plus, mais c'est aussi ce qui nous fait que on en est arrivé là de nos jours, qu'on a peut-être une certaine forme d'ouverture d'esprit ou de sagesse qu'on n'aurait pas s'il était toujours là, à nous coucouner. Donc, compliqué d'intervenir pour les autres. Compliqué.
On revient encore une fois sur l'antifragilité, comme quoi malheureusement le décès d'un proche nous renforce. J'ai connu ça également, alors pas un parent proche, mais deux amis à moi qui sont décédés quand j'étais jeune. Effectivement, ça renforce énormément. Mais le problème actuel, c'est que la société, on a beaucoup de comportements qui sont mauvais. Donc manger McDonald's, le Nutella, tu l'as très bien dit. Mais si une personne meurt à cause de ça, malheureusement, le renforcement se fait pas non plus. Parce que la société est là pour toujours promouvoir ces saloperies, il faut dire les bons mots. Les gens ne font pas la corrélation entre manger McDo et être en surpoids et être en mauvaise santé et décédé. Et la société en plus crée des médicaments, des solutions, des vaccins ou autres pour aider les gens à continuer d'avoir leur comportement négatif. Donc là, on est un peu sur le côté antifragile, plus trop, parce que les gens justement continuent à avoir des comportements délétères et ils sont cautionnés, pardon, par la société. Et justement, c'est quand on n'a pas ces comportements-là, quand on mange bien, quand on mange bio, qu'on devient presque critiqué et ostracisé. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. On est sur un point de bascule à l'heure actuelle qui est assez mauvais et assez affligeant quand on prend un peu de recul par rapport à ça, je trouve.
Tiens, tu as bien raison. Il faut mettre les bouchées doubles, créer tous des médias comme ton podcast, comme ma chaîne YouTube, comme porter haut cette parole et juste en fait le bon sens, revenir aux bases. C'est pour ça que j'aime le terme de naturopathie, parce que c'est en anglais ça veut dire la voie de la nature. C'est juste remettre le cadre naturel dans lequel était l'homme et dans lequel duquel on l'a sorti. C'est tout.
C'est revenir à la base encore une fois. L'homme a très bien survécu durant 200 000 ans sans McDonald's et si ça s'arrête demain, il continuera à survivre.
C'est ça.
Alors que si on arrête l'eau, l'exercice physique, pas sûr qu'il tienne encore 200 000 ans. Quoi.
C'est ça, exactement.
Parlons maintenant des ondes, est-ce encore un peu de temps, parce que effectivement, tu en as parlé la semaine dernière dans ton podcast, qu'on est sorti comme quoi des études ont été menées, où un téléphone portable présent dans une poche, même éteint, même en mode avion, peu importe, peut avoir des répercussions sur la posture des personnes. Et comme on en parle depuis le début, la posture, c'est important parce que c'est la base au niveau de la pyramide de l'apprentissage. Et sans posture correcte, on a forcément des implications négatives sur la mémoire, la cognition, la concentration et autres. Peux-tu en parler un peu plus, s'il te plaît, Pierre?
Ouais, avec toi. C'est un monde que j'ai beaucoup exploré parce que à une époque, j'étais beaucoup plus versé, en tout cas dans mes recherches, du côté lanceur d'alerte, c'est-à-dire regarder un petit peu tout ce qu'on fait de mal. Par contre, ça se voyait pas trop dans mes publications ou dans mes vidéos YouTube où j'essaie toujours d'être positif et de parler que des grands principes de la physiologie. Mais quand même, j'ai mis le nez là-dedans et forcé de constater que il y a des trucs qui font peur. Et quand on étudie, on a parlé du système nerveux qui est en fait la base pour la posture. On a bien compris. On a parlé du système nerveux central, du cerveau, moelle épinière, système nerveux périphérique, etc. En fait, c'est une jonction de nerfs qui se touchent plus ou moins, qui ont des petits espaces qui s'appellent des synapses entre eux, et ils se transmettent des neurotransmetteurs. Voilà. C'est ça la base. Il y a un message qui est passé, un courant électrique qui est véhiculé à travers les nerfs. Et si on dit courant électrique, en fait, c'est une différenciation de voltage. En fait, c'est des polarisations en dehors de la membrane, Et à l'intérieur de la membrane du neurone, vous voyez, vous imaginez un neurone, une cellule neuronale, à l'intérieur, il y a une certaine polarisation, à l'extérieur, il y en a une autre. Et quand on va faire rentrer des ions, les ions calcium, les ions sodium, les ions potassium, mais qui sont tous chargés, on appelle ça des cations, des anions, s'ils sont chargés positivement ou négativement, la différence entre plus et moins va créer du voltage. Et donc, on va changer la polarisation du neurone. Si ça change, hop, le neurone, il lance un potentiel d'action. Il lance, ça veut dire, il fait passer le courant électrique. Et hop, l'information circule. Bon, bah, ça, c'est une histoire de voltage, les amis. Donc, si on a le QG de la NASA dans le short, on comprend bien que ça peut avoir des petites implications. S'il y a le Wi-Fi sans arrêt qui envoie des ondes, c'est qu'une histoire, évidemment, de changement, justement, du voltage de votre membrane. Et il en faut très peu, hein. C'est de passer de moins 90 millivolts à moins 70 millivolts qui lance un potentiel d'action au niveau des neurones. Et on s'est rendu compte que ce qui se passe, c'est qu'en bout de course, donc au bout du neurone, quand il va faire la jonction avec le prochain neurone, il y a les canaux à calcium, par exemple, hein, il y a d'autres implications, mais je vais parler de ça. Les canaux à calcium, ils sont de voltage dépendants, ça veut dire qu'ils s'ouvrent ou ils se ferment selon le voltage. Et ben, avoir un portable dans la poche, les travaux notamment de Nick Pinault, si vous voulez aller regarder, mais il y en a d'autres hein, qui ont étudié ça, ont montré que les ondes, notamment 4G, 5G, 3G aussi, hein, a fortiori 5G, le Wi-Fi, etc., font ouvrir les canaux à calcium. Et donc, le calcium rentre dans le neurone, pousse les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est la dopamine, l'acétylcholine, voilà,
La
l'adrénaline, tout
sérotonine,
ça,
etc.
en dehors. Et donc, ça allume le système. Donc, vous vous déchargez de vos neurotransmetteurs, vous faites rentrer du calcium, vous utilisez le calcium sanguin, vous allumez le système nerveux, et le système nerveux, c'est ce qui contrôle la posture. Donc, c'est obligatoire qu'il y ait des répercussions. Obligatoire. Et pour en revenir à ce que je disais dans le podcast que tu as écouté précédemment, c'est que un ami qu'on a en commun avec Mathieu Boulay, c'est Jean-Philippe Carrère, qui a travaillé un petit peu avec Matt, et ils se sont amusés à faire des tests. Donc, portable dans la poche, la personne a une certaine posture, on enlève le portable, ah, tout d'un coup, les épaules sont mieux alignées. Voilà, ils ont fait des petits tests comme ça. Donc, c'est une information de seconde main que je te donne par rapport à ces tests-là, mais c'est des gens quand même de source sûre, c'est des amis. Quand ils disent quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est qu'ils l'ont constaté, en tout cas. Et voilà, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que avoir un outil électromagnétique qui émet des ondes ou qui n'en émet pas, c'est clair que le corps, pour lui, c'est une information. On a parlé du neurospect tout à l'heure et du toucher et du tactile. S'il sent un portable dans sa poche, obligatoirement, il y a une implication sur le système nerveux, notamment sur le multitask. C'est-à-dire que si ton portable, là, il est dans ton champ de vision, ton cerveau, il l'a vu. Hein. Ton cerveau, il l'a vu dans la vision périphérique. Donc, il y a une partie du cerveau, petite, hein, je sais pas moi, hein, quelques pourcents, mais qui est en train de multitasker, je sais pas comment on dit, faire du multitâche en pensant au portable où il peut y avoir d'un moment à l'autre. Donc, il anticipe un peu une notification, un appel, un texto. Il le voit dans son champ périphérique. Et alors, mais s'il le sent dans la poche, c'est encore pire. Il y a une partie du cerveau qui y pense. Et on a des, il y a des études qui commencent à sortir et qui font encore plus peur. Et c'est pas mon projet, hein, de faire peur aux gens, mais c'est quand même pour mettre le doigt sur quelque chose qui peut être une prochaine crise sanitaire. C'est, je sais plus le terme en anglais, mais en gros, c'est la déception que tu as et l'attente que tu as par rapport à un bruit de notification qui arrive ou qui n'arrive pas. C'est-à-dire le petit tling ou la vibration de ton portable, c'est tellement engrammé dans ton cerveau qu'il est toujours en train de se dire, ah, vivement, j'espère qu'il va y avoir quelque chose, j'espère qu'il va y avoir une notification. Et si vous mettez, faites le test, hein, dans une salle d'attente où il y a beaucoup de monde ou quoi, faites vibrer un portable, vous allez voir tout le monde se réveille parce que tout le monde est plus ou moins en train d'anticiper ça et d'espérer ou pas, hein, en bien ou en mal, mais d'anticiper la sollicitation par le portable. Mais ça, c'est mais on s'en rend pas encore compte parce que ça, c'est une technologie qui est arrivée il y a 10 ans, c'était pas là, les smartphones, ou plus ou moins c'était juste arrivé. Mais c'est en train d'exploser, à mon avis, la physiologie humaine et pas dans le bon sens. Donc, pour moi, c'est ma plus grande peur, c'est par rapport à ça.
C'est vrai qu'on est en pleine frustration dopaminergique. La personne veut avoir une notification, un élément, souvent qui gratifie un peu son ego, comme un j'aime sur Facebook, comme un like sur Instagram ou autre, peu importe. Et n'ayant pas la notification, on le redescend au niveau dopamine sécrété par anticipation, et forcément, ça a un coup de dépression. Et aussi, l'autre phénomène dont tu parles, c'est aussi un peu le FOMO, donc le fear of missing out. Souvent, l'être humain, du coup, nos ancêtres et lointains ancêtres, voulaient maîtriser l'environnement pour agrandir les chances de survie. Et une notification, c'est quoi? C'est un élément de maîtrise de l'environnement, c'est connaître les informations avant les autres, c'est être tenu au courant de certains éléments qui se passent dans la famille ou autre, et on a peur de louper ça, par peur d'avoir du retard par rapport aux autres personnes, et le cerveau a peur, à cause de ça, de manquer de potentiel de survie. Donc effectivement, c'est un très beau détournement qu'on fait les industries par rapport à ça. Et les petites pastilles rouges, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. En plus, le rouge, c'est quoi? C'est la couleur la plus repérable par le humain, parce que c'est la couleur des femelles en chaleur, c'est la couleur des fruits dans les arbres. Et donc, dès qu'on a une pastille rouge, on saute dessus instantanément. Et c'est terrible, ouais. C'est terrible. Et pour revenir aux ondes, effectivement, c'est une notion à laquelle je m'étais pas du tout intéressé. Et je m'intéresse depuis très peu à ça, grâce à ma compagne, très clairement, hein, qui s'intéresse beaucoup aux ondes, qui a lu des livres par rapport à ça, qui a interviewé une spécialiste par rapport à ça sur son média, qui a suivi la formation aussi de Thierry Casanova, que tu connais très bien, qui est un ami à toi, sur tout ce qui est maternité, tout ce qui est enfant. Et dans cette formation-là, les ondes sont vraiment mises en évidence par un expert qui montre à quel point des ondes, il y en a partout chez soi. Et typiquement, avec le fait de mal brancher une lampe, peut complètement changer l'émanation d'ondes électriques émises par cette lampe. Ouais. C'est vrai que je suis encore vraiment néophyte par rapport à ça, je m'oppose plus sur ma compagne, mais c'est vrai que ça fait peur un peu de ça. Je peux comprendre la peur qu'elle a derrière, et je commence à l'intellectualiser aussi de mon côté, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois en arrière.
Ah bah tant mieux, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on mette le haut là maintenant, ça c'est sûr.
Ouais. Après, il y a beaucoup de solutions, mais ça coûte cher. Il y a des câbles spéciaux pour ça, il y a plein d'éléments, des détecteurs qu'on a achetés aussi, mais c'est un investissement et c'est ça le problème, ça coûte très cher. C'est qui paye face aux ondes, c'est très très cher.
Il faut avoir une approche stoïcienne, hein, encore une fois. Hein,
oui, qu'est-ce que je peux faire,
ouais. C'est ma gestion du portable, par exemple. Mon portable, maintenant, il est éteint au fur et à mesure d'avion et il est loin de moi toute la journée, et je vais le consulter deux fois par jour. Je le consulte généralement à midi et à 18h. Ça, c'est ma routine. C'est Tim Ferriss qui m'a appris ça dans son bouquin la semaine. Il dit, vos emails, vous les consultez deux fois par jour. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a jamais d'urgence. Il faut essayer de se cacher le voile et la face. Les urgences, ça arrive une fois par an, donc faut arrêter. Les emails, deux fois par jour, vous les consultez, vous répondez, et vous mettez un truc automatique. Sinon, qui dit, je consulterai mes emails à midi ou à 18h. Si c'est urgent, je vous réponds. Si c'est pas urgent, je vous réponds pas. Et basta. Et le portable, c'est pareil. Il faudrait que ce soit occasionnel. Et a fortiori avec les enfants.
Moi, j'ai poussé le vice jusqu'à mettre un bloqueur d'applications sur mon Mac.
Ouais.
Donc, ça bloque automatiquement tous les jours, toutes les applications. Après, Facebook, j'ai déjà bloqué de base parce que j'ai plus accès. LinkedIn, je m'en sers au niveau pro, forcément, j'en ai besoin. Mais les mails sont bloqués de 5h du matin jusqu'à 11h30 et de 13h30 jusqu'à 18h. Et si je veux les réactiver, je dois payer. Donc, c'est un gros frein à l'entrée, ça marche plutôt bien.
Ah, c'est clair.
En tout cas, on arrive à la fin de l'échange. Pierre, merci pour ton temps déjà, parce que le podcast dure 1h15, sans compter l'échange qu'on a eu, nous, en amont. Si les personnes veulent en savoir plus sur toi, donc déjà, il y a Verisme TV. Bien évidemment, tu sors quasiment une vidéo par semaine. Sauf problème de box internet, comme tu as eu récemment. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres canaux, hormis le podcast aussi, pour te découvrir? Est-ce que tu proposes des consultations potentiellement? Ou les gens peuvent en savoir plus sur toi, tout simplement?
Très gentil. C'est moi qui te remercie, Jérémy. L'heure et quart est passée extrêmement vite parce que c'était vraiment intéressant. Je me suis écouté. Donc, merci beaucoup. À refaire, avec joie.
À refaire, avec grand plaisir.
Ouais, bah écoute, Verisme TV, c'est sur YouTube, hein, c'est la chaîne YouTube. Le podcast de l'antifragilité, hormez.com, c'est le site internet où il y a toutes mes formations. J'ai recommencé les suivis, mais uniquement d'athlètes professionnels. J'ai pas trop le temps de m'occuper de faire du coaching un par un pour monsieur et madame tout le monde, malheureusement. Et j'ai plus l'énergie et plus la foi de le faire parce que je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Et là, j'ai vraiment envie d'œuvrer dans le monde du sport qui est quand même ma plus grande passion. Donc il y a uniquement ça qui est ouvert en contact direct avec moi. Sinon Instagram c'est Verisme TV, Facebook c'est Pierre Verisme, vous me trouverez très facilement.
Et aussi du coup tu fais des stages hors période de confinement mondial.
Ouais, on essaye de prévoir ça bientôt, j'espère qu'on va reprendre ça, les stages, ça serait cool cet été. On fait des tournées aussi avec, on fait Super France avec Idriss et Gunther, Idriss Aberkane et Gunther Pauli. On va faire le deuxième tour de Super France là, cet été. Ça va être encore un grand moment.
Super.
Ouais, c'était déjà génial l'année dernière, mais là, ça va être encore mieux. Et moi, j'avais fait un tour de France qui s'appelait les Autonomes Solidaires, où je donnais des week-ends gratuits de formation l'année dernière. C'était génial aussi. Donc voilà, j'espère que la situation va un peu se décanter pour reprendre contact, vrai contact avec les gens.
Complètement, puis j'ai hâte de te rencontrer pour tester ton super congélateur.
C'est
Parce que je
clair.
suis jaloux, je n'ai pas ça chez moi, pire, un congélateur qui est uniquement dédié au bain froid. Donc je pense que ça va être assez sympa de rentrer là-dedans, parce que moi je vais me contenter de la douche froide tous les matins au minimum, mais entre, je pense, prendre une douche froide et prendre un bain froid, il y aura un monde d'écart, je pense.
Ouais,
Je
si t'as
dis pas
l'habitude
ça en
du
mode
bain
erreur
froid, tout est...
sémantique, hein, vraiment, je pense que ça va être l'écart est assez impressionnant, pardon.
Franchement, si t'as l'habitude de la douche froide et que tu l'as fait depuis longtemps, ça va se faire. Voilà.
Ok.
Il y a évidemment il y a un écart, mais c'est pas la montagne qu'on s'imagine.
Ok, bah j'ai hâte de tester ça à l'occasion quand on sortira enfin de tout ça. Bah merci Pierre et à très vite et au plaisir de remettre ça ensemble avec grand plaisir.
Moi qui te remercie, Jérémy. À très
À très
vite.
vite, ciao, salut.
Alors.
Et voilà, nous y sommes. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, à la fin de cet échange. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que tous les échanges que j'ai pu vous partager ce mois-ci, au travers de la posture et de son lien avec les performances cognitives, vous auront plu, vous auront parlé et surtout auront éveillé en vous une nouvelle dimension de la performance. Une dimension encore une fois trop souvent oubliée mais qui pourtant est clé, comme l'a très bien dit Pierre, comme il l'a très bien précisé au travers de la pyramide de l'apprentissage. Si la base de la pyramide n'est pas solide, si elle n'est pas construite, si elle est bâtie sur du sable, alors il sera vain pour vous d'espérer développer les autres compétences de la pyramide, dont tout ce qui est capacité d'apprentissage, de mémorisation, de management, et j'en passe. Donc sans une posture optimisée, sans un cerveau optimisé, sans un organisme en pleine santé, comme je me tue à le répéter très régulièrement, espérer avoir des meilleures compétences, malheureusement, est peine perdue. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que vous serez vous, à cause de ça, limitez tout simplement dans l'expression de vos compétences ou dans le potentiel de développement de vos compétences. Tout ça se corrige au travers d'exercices simples, au travers d'habitudes à prendre au quotidien, comme vous le savez parfaitement maintenant. Je vous laisse donc mettre tout ça en place et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de podcast. Ciao!